Tel se présente l'univers impressionnant de la magie, qu'il est constitué non pas d'atomes, mais uniquement de mouvements et de vibrations. En son sein, il convient d'abandonner toute croyance aux barrières qui font obstacle à la compréhension. La notion de compréhension elle-même est à écarter, cet univers n'étant ni visible, ni audible, ni décelable par aucun moyen fixe de perception. C'est le vide ultime où aucun écran préalable n'existe sur lequel puissent être projetées des formes. Il ne connaît qu'un seul mode de conscience, et c'est l'écran de projection des images, l'imagination. Ainsi, l'on apprend véritablement ce que signifie être humain, être un créateur d'ordre, de formes et de systèmes harmonieux. Être, en somme, l'organisateur du chaos. Manifeste des Atréides, archives du Bene Gesserit.
« Ce que tu fais là est trop dangereux, » déclara Teg. « J'ai ordre de te protéger et de te rendre fort. Je ne peux pas permettre que cela continue ainsi. »
Teg et Duncan se trouvaient dans le long corridor lambrissé juste à l'entrée de la salle d'entraînement du non-globe. L'après-midi était déjà bien avancé, d'après l'horaire qu'il s'était arbitrairement fixé, et Lucille venait de les quitter dans un froissement furieux de ses robes, à l'issue d'un affrontement plein de vitupérations de part et d'autre. Chaque rencontre entre Duncan et Lucille, ces derniers temps, avait pris l'allure d'une bataille. À l'instant même, elle s'était campée dans l'encadrement de la porte, silhouette massive, adoucie par des rondeurs en évidence et une attitude de séduction qui ne pouvait échapper à aucun des deux mâles.
« Assez, Lucille !» avait crié Duncan.
Seule la voix de la révérende mère trahissait sa colère quand elle avait répliqué « Combien de temps crois-tu que j'ai l'intention d'attendre pour exécuter mes ordres ?»«
Jusqu'à ce que vous me disiez, vous ou quelqu'un d'autre, ce que je… »
« Taratza attend de toi des choses dont personne ici n'a connaissance !» s'écria Lucille.
Teg voulut apaiser les esprits.
« Je vous en prie, ne suffit-il pas pour l'instant que Duncan continue d'améliorer ses performances ?» D'ici quelques jours, je commencerai à monter régulièrement la garde au dehors. Ne pourrions-nous pas…
Vous pourriez commencer par cesser de vous mêler de mes affaires, avait coupé Lucille.
Et c'est alors qu'elle était partie, furieuse. En lisant, à présent, l'expression de froide détermination dans le regard de Duncan, Teg s'était senti brusquement agacé. Il se voyait prisonnier dans tous les sens du terme de la situation. Son intelligence mentate, cet instrument magnifiquement affilé, était ici coupé de la rumeur mentale à laquelle elle était habituellement accordée à l'extérieur. Il se disait que s'il pouvait seulement imposer le silence à son esprit, ramener tout au calme pendant un moment, tout redeviendrait bien plus clair.
« Pourquoi retenez-vous votre respiration, Bachar ?»
La voix de Duncan avait transpercé Teg. Il lui fallut un énorme effort de volonté pour se remettre à respirer normalement. Il percevait les émotions de ses deux compagnons à l'intérieur du non-globe comme un flux et reflux temporairement coupé des autres forces. Les autres forces. Les perceptions mentates pouvaient faire figure de débiles face aux autres forces qui balayaient l'univers. Il existait peut-être dans le cosmos des êtres à qui la vie insufflait des pouvoirs qu'il n'était pas capable d'imaginer. À côté de telles forces, il ne serait qu'un maigre fétu ballotté par l'écume d'un torrent furieux. Qui pouvait plonger dans un tel tourbillon et en ressortir intact?
Je ne vois pas ce que pourrait bien faire Lucille si je continue à lui résister, déclara Duncan.
A-t-elle essayé d'utiliser la voix avec toi? Demanda Teg d'une voix qui lui sembla appartenir à quelqu'un d'autre.
Une fois seulement.
Tu lui as résisté?
La surprise lointaine avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à lui et à lui rendre sa lucidité.
C'est Paul Mouad Dib en personne qui m'a appris à faire ça.
Mais elle est capable de te paralyser d'un seul…
Je crois qu'elle a des ordres qui excluent la violence.
Qu'est-ce que la violence, Duncan?
Je vais à la douche, Bachar. Vous ne venez pas?
Dans une minute.
Teg prit une longue inspiration. Il se sentait au bord de l'épuisement. Cet après-midi d'entraînement, et puis cela à présent, il y avait de quoi le vider de ses forces. Il regarda partir Duncan. Où était donc Lucille? Que préparait-elle? Combien de temps encore allait-elle attendre? Cette dernière question était cruciale et projetait l'emphase particulière du non-globe sur la notion de leur isolement dans le temps. De nouveau, il perçut ce flux et reflux sur lequel s'exerçait l'influence de leurs trois vies. « Il faut que je parle à Lucille. Où est-elle passée? À la bibliothèque? Non, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse avant. » Lucille était assise dans la petite pièce où elle avait élu domicile dès les premiers jours. C'était un espace exigu, agrémenté d'une alcôve, qu'occupait un lit somptueusement ouvragé. Plusieurs signes, subtils ou grossiers, indiquaient qu'il s'agissait là de la chambre de Kelketaïr Harkonnen en faveur à l'époque. Des bleus pastels soulignés de bleus sombres dominaient dans la décoration. Malgré les enjolivures baroques du lit, de l'alcôve, du plafond et de tous les objets fonctionnels, Lucille était capable de faire abstraction du lieu quand elle s'y reposait. Allongée sur le lit, elle fermait les yeux pour ne pas voir les images lourdes de sexualité qui ornaient le plafond de l'alcôve. Il va falloir s'occuper de Teg. Il lui faudrait agir sans mécontenter Taratsa ni rendre le Gola vulnérable. Teg posait un problème particulier à plusieurs égards, et principalement par la manière dont ses processus mentaux pouvaient puiser à volonté à des sources profondes qui n'étaient pas sans parenté avec celles du Bene Gesserit. Toujours cette révérende mère qu'il a enfantée, naturellement. Il y avait toujours beaucoup de choses qui passaient d'une telle mère à un tel fils. Cela commençait dans la matrice et ne prenait probablement même pas fin quand les deux êtres étaient séparés par la suite. Teg n'avait jamais subi l'épreuve vorace de la transmutation qui pouvait engendrer les abominations. Tout de même pas ça. Mais il possédait néanmoins des pouvoirs subtils et parfaitement réels. Ceux qui étaient issus du ventre d'une révérende mère avaient la possibilité d'apprendre des choses interdites aux autres. Teg savait exactement de quelle manière Lucille considérait l'amour sous toutes ses manifestations. Elle avait vu son expression l'autre jour quand il se trouvait encore à la citadelle. Sorcière bourrée d'arrière-pensée. Il aurait pu aussi bien le lui crier à la figure. Elle se souvenait aussi du sourire anodin et du regard supérieur dont elle l'avait gratifié. Cela avait été une erreur de sa part, humiliante pour tous les deux. Elle perçut soudain dans cette pensée qu'elle venait d'avoir l'existence d'une sympathie latente à l'égard de Teg. Quelque part en elle, malgré l'enseignement vigilant du Bene Gesserit, il y avait des failles. Ses instructrices l'avaient maintes et maintes fois mise en garde. Pour être capable d'insuffler un véritable amour, vous devez l'éprouver vous-même, mais uniquement de manière transitoire. Et une seule fois suffit. À ce sujet, les réactions de Teg face au Gola Duncan Idaho étaient édifiantes. Teg se trouvait à la fois attiré et repoussé par celui dont ils avaient tous les deux la responsabilité. Tout comme moi, du reste. Peut-être sa plus grande erreur était-elle de n'avoir pas séduit Teg avant. Durant ses années d'éducation sexuelle, où on lui avait appris à puiser de l'énergie dans les rapports physiques au lieu de s'y diluer, ses instructrices avaient continuellement mis l'accent sur l'analyse et les comparaisons historiques, dont les mémoires secondes de toute révérende mère recelaient d'innombrables exemples. Lucille concentra ses pensées sur la présence mâle de Teg. Ce faisant, elle éprouva une réaction féminine immédiate. Sa chair aspirait à la présence de Teg tout contre elle, au sommet de l'excitation sexuelle, prêt pour le moment de mystère. Un amusement léger s'insinua dans la pensée consciente de Lucille. Pas orgasme, pas de dénomination scientifique, c'était du pur jargon Bene Gesserit, le moment de mystère, l'ultime spécialité de l'imprégnatrice. L'immersion dans la longue continuité de l'ordre rendait indispensable le recours à ce concept. On lui avait appris à croire profondément en cette dualité. D'une part, les faits scientifiques sur lesquels s'appuyaient les maîtresses généticiennes pour les guider, mais de l'autre, en même temps, le moment de mystère qui transcendait toute connaissance. L'histoire et la science Bene Gesserit enseignaient que les pulsions de procréation devaient demeurer irrémédiablement enfouies dans la psyché. Elles ne pouvaient être extirpées sous peine de destruction de l'espèce. Le filet de sécurité. Lucille était maintenant en train de rassembler autour d'elle toutes ses énergies sexuelles, comme seule pouvait le faire une imprégnatrice du Bene Gesserit. Elle entreprit de concentrer ses pensées sur Duncan. Il devait être en ce moment sous la douche, en train de penser à la séance d'instruction de ce soir avec son professeur révérende mère.
Je dois aller à mon élève sans plus tarder, se dit-elle. La leçon cruciale doit être administrée maintenant, ou il ne sera jamais fin prêt pour Rakis.
C'étaient les ordres de Taratsa. Toutes ses pensées se focalisèrent entièrement sur Duncan. C'était presque comme si elle le voyait nu sous sa douche. Comme il avait peu idée de ce qu'il y aurait pour lui à apprendre.
Duncan se trouvait seul assis dans le vestiaire des douches attenant à la salle d'entraînement. Il était plongé dans une profonde tristesse qui faisait remonter en lui le souvenir d'anciennes souffrances occasionnées par des blessures que sa jeune chair n'avait jamais connues. Certaines choses cependant ne changeaient pas. Les sœurs jouaient toujours au même jeu d'antan. Il regarda autour de lui les sombres boiseries de cet ancien repère Harkonnen. Murs et plafonds étaient incrustés d'arabesques. Les mosaïques du sol formaient d'étranges dessins. Monstres et corps humains aux proportions harmonieuses étaient définis par les mêmes traits qu'un éclair d'attention suffisait à faire surgir dans un sens ou dans l'autre.
Duncan baissa les yeux vers ce corps que les Tleilaxu, dans leur cuve Axlotl, avaient réalisé pour lui. Il lui produisait par moments une drôle d'impression. Dans les derniers instants de sa vie pré-Gola dont il se souvenait, il était un homme adulte et riche d'expérience qui combattait un essaim de guerriers Sardaukar pour donner à son jeune duc une chance de s'échapper. Son jeune duc. Paul n'était pas à l'époque plus vieux que le corps actuel de Duncan. Mais il était déjà conditionné à la manière de tous les Atreides avant lui. Honneur et loyauté par-dessus tout. Le même conditionnement qu'ils m'ont donné après m'avoir sauvé les Harkonnen. Quelque chose en lui ne pouvait échapper à cette ancienne dette. Il en connaissait parfaitement la source. Il pouvait retracer exactement le processus au moyen duquel elle avait été implantée en lui, pour y rester jusqu'à présent. Il regarda le sol carrelé. Des mots avaient été gravés dans le dallage qui bordait la cloison du vestiaire. C'était une écriture qu'une partie de lui-même avait identifiée comme antique, datant de l'époque oubliée des Harkonnen, mais qu'une autre partie ne connaissait que trop bien sous le nom familier de Galak Standard. Propreté, netteté, propreté, clarté, santé, propreté, pureté. L'ancienne écriture se répétait tout autour de la petite pièce, comme si les mots tout seuls avaient le pouvoir de créer des choses qu'il savait étrangères au Harkonnen de son souvenir. Au-dessus de l'entrée des douches, une autre inscription disait « Confesse ce qui est dans ton cœur et tu deviendras pur ». Une admonition religieuse dans un sanctuaire Harkonnen? Les Harkonnen avaient-ils donc changé au cours des siècles qui avaient suivi sa mort? Duncan avait du mal à y croire. Ces mots venaient probablement du constructeur qui les avait jugés appropriés. Il sentit, plus qu'il n'entendit, l'arrivée de Lucille derrière lui dans le vestiaire. Il s'empressa d'agrafer la tunique qu'il avait prise dans les compartiments anentropiques du non-globe, non sans en avoir préalablement retiré toutes les marques d'identification Harkonnen. Sans se retourner, il demanda « Eh bien, qu'y a-t-il, Lucille ?» Elle caressa le tissu de la tunique le long de son bras gauche. « Les Harkonnen avaient le goût du luxe ?»«
Lucille, » fit Duncan en articulant soigneusement, « si vous me touchez encore sans ma permission, je m'efforcerai de vous tuer. Et j'agirai avec une telle conviction que si j'échoue, c'est vous qui serez probablement obligé de me tuer pour vous défendre. »
Elle eut un mouvement de recul. Il la regarda droit dans les yeux en ajoutant « Je ne suis pas l'animal reproducteur de vos foutues sorcières. »«
Tu crois que c'est ça qui nous intéresse ?»« Personne ne m'a dit ce qui vous intéresse, mais vos actes parlent d'eux-mêmes. »
Il se balançait de la pointe d'un pied sur l'autre. Cette chose en lui qui n'avait pas été éveillée frémissait et faisait battre son pouls à toute allure.
Lucille l'observa attentivement.
Encore ce maudit Milesteg. Elle ne s'attendait pas à ce que la résistance de Duncan prît cette forme. Sa résolution ne faisait aucun doute. Les mots par eux-mêmes n'y pouvaient rien. Il était immunisé contre la voix. La vérité. C'était la seule arme qui lui restait.
Écoute, Duncan, je ne sais pas exactement ce que Taratsa veut te faire accomplir sur Rakis. Je veux bien essayer de deviner, mais je peux me tromper.
Essayez toujours.
Il y a une fille sur Rakis, presque une enfant encore. Elle s'appelle Shianna. Les vers du désert lui obéissent. D'une manière ou d'une autre, il faut que ce pouvoir passe entre les mains du Bene Gesserit.
Je ne vois pas en quoi je pourrais.
Si je le savais moi-même, je te le dirais certainement tout de suite.
Il perçut sa sincérité que dévoilait le désespoir. Et quel rapport votre propre talent a-t-il avec tout ça ? Demanda-t-il.
Taratza et ses conseillers sont seuls à le savoir.
Ils veulent assurer leur emprise sur moi pour que je n'ai aucune chance de leur échapper.
Lucille était déjà arrivée à cette déduction, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il y parvienne si aisément. Le visage juvénile de Duncan cachait une intelligence qui fonctionnait d'une manière dont elle n'avait pas encore saisi toute l'ampleur. Ses pensées se mirent à tourner à toute allure.
Qui dominera les vers pourra faire renaître l'ancienne religion?
C'était la voix de Teg, dans l'encadrement de la porte derrière Lucille.
Je ne l'ai pas entendu venir.
Elle fit brusquement volte-face. Teg avait au creux de son bras l'un des antiques lasers des Harkonnen, dont le canon était négligemment pointé sur elle.
« C'est pour m'assurer que vous m'écouterez, » dit-il.
« Depuis combien de temps nous épiez-vous ? »
Son regard furieux n'eut pas d'effet sur l'expression de Teg.
« Depuis le moment où vous avez reconnu que vous ne saviez pas ce que Taratza attend au juste de Duncan, » répondit-il. « Je ne le sais pas moi non plus, mais je peux faire quelques projections mentat. Rien de bien défini pour le moment, mais cela ouvre des perspectives. Vous me direz si je me trompe. »«
Sur quoi ?»
Il jeta un regard à Duncan.
« L'une des choses que l'on vous a ordonné de faire est de le rendre irrésistible à la majorité des femmes. »
Lucille s'efforça de dissimuler son dépit. Taratza lui avait recommandé de cacher cela à Teg le plus longtemps possible. Elle voyait maintenant qu'il était trop tard. Teg avait su lire en elle, avec une habileté diabolique, inculquée par sa diabolique mère.
« Des énergies considérables sont en train de s'amasser pour être dirigées contre Rakis. » poursuivit le Bachar toujours en regardant Duncan. Quelles que soient les modifications que les Tleilaxu ont pu introduire en lui, il reste le dépositaire dans ses gènes de certaines qualités appartenant à une ancienne humanité. Est-ce là ce que recherchent les maîtresses généticiennes ?
Un foutu étalon pour le Bene Gesserit ! S'écria Duncan. Que comptez-vous faire avec cette arme ?
Demanda Lucille en désignant l'antique laser au bras de Teg.
« Ça, je n'ai même pas mis de recharge dedans. »
Il abaissa le canon de l'arme et la posa dans un coin à côté de lui.
« Miles Teg, vous serez puni pour ce que vous venez de faire !»
s'écria Lucille d'un ton grinçant.
« Cela devra attendre. Il fait presque nuit dehors. Je suis sorti tout à l'heure avec le cache-vie. Burt Smalley est passé ici. Il a laissé sa marque pour me dire qu'il avait trouvé le message que j'ai gravé dans l'écorce des arbres parmi les griffures d'animaux. »
Le regard de Duncan était soudain devenu attentif, ses yeux brillaient.
« Qu'allez-vous faire ? »
demanda Lucille.
« J'ai laissé un nouveau message fixant un rendez-vous. En attendant, nous allons tous à la bibliothèque. Il y a là des cartes que nous allons étudier et mémoriser. Si nous devons fuir, au moins, nous saurons où nous irons. »
Lucille lui accorda le bénéfice d'un bref hochement de tête. Duncan n'avait saisi son mouvement qu'avec une toute petite partie de son attention. Il avait déjà mentalement devant lui les anciens documents de la bibliothèque Harkonnen. C'était lui qui avait montré à Teg et à Lucille la manière de se servir correctement des appareils et qui avait fait projeter une ancienne carte de Giedi Prime datant de l'époque où le non-globe avait été construit. Guidé par les souvenirs pré-Gola de Duncan et par sa connaissance plus moderne de la planète, Teg avait essayé de mettre la carte à jour. Station forestière était devenue Citadelle Bene Gesserit.
C'était principalement un territoire de chasse des Harkonnen, avait expliqué Duncan. Ils chassaient du gibier humain élevé sur les lieux et conditionnés spécialement dans ce but.
Des villes entières avaient disparu. D'autres étaient devenues d'importantes cités, mais sous une autre appellation. Issaï, la plus proche de l'endroit où ils se trouvaient, était indiquée sous le nom de Baronnie sur l'ancienne carte. Le regard de Duncan s'était durci à cette évocation.
C'est là qu'ils m'ont torturé.
Quand Teg eut épuisé ses souvenirs de la planète, beaucoup d'endroits demeuraient marqués inconnus, mais il avait ajouté un grand nombre de symboles vrillés du Bene Gesserit, identifiant les lieux où les agents de Taratza lui avaient dit qu'ils pourraient trouver éventuellement refuge. C'était surtout ces emplacements que Teg voulait mémoriser. Tout en se tournant pour les précéder sur le chemin de la bibliothèque, Teg déclara
« J'effacerai cette carte dès que nous l'aurons tous en tête. On ne peut pas savoir qui viendra fourrer son nez ici après notre départ. »
Lucille le dépassa dans un froissement d'étoffe.
« Vous en porterez la responsabilité comme pour tout le reste, Miles. »
Il cria vers le dos qui s'éloignait.
« C'est un mentat qui vous affirme qu'il n'a fait que ce qui était attendu de lui.
Belle logique,
répliqua-t-elle sans se retourner.